Catherine le matin. Voici le Doc Mailloux.
À 7h11, bon matin, Pierre.
Oui, écoute, Marc-André, d'abord les fleurs.
Pourquoi?
Écoute, Christiane Laberge, je viens de l'entendre.
Oui.
Je crois que c'est sa meilleure chronique médicale à vie.
Ah oui?
Alors, elle a fait une présentation sur le plan scientifique rigoureuse, bien vulgarisée. Alors, ceux qui ont écouté, vous avez compris quelque chose de cette intervention-là. Un seul point sur lequel je ne suis pas d'accord avec.
Oui.
Elle a mentionné à la fin que les restrictions alimentaires ne marchaient pas chez les obèses morbides.
Oui.
Bon, Christiane, je dois lui apprendre quelque chose. Puis je le dis respectueusement, là.
Mm-hmm.
Les gros sont souvent menteurs.
OK.
Je répète, les gros obèses sont souvent menteurs, se mentent à eux-mêmes, donc mentent aux médecins.
Donc, vous voulez dire que quand il y a des restrictions alimentaires qui sont imposées et ou suggérées, ils disent qu'ils les respectent, mais ils le font pas.
Je te donne un exemple. Alors, les restrictions alimentaires, c'est très simple. C'est les 3P plus les desserts, le sucre.
Oui.
Correct?
Le pain, pain pâte, pâte, patate. Ouais, c'est ça.
Bon, pain, pâte, patate, et puis les desserts. Écoute, je vous donne un exemple. Il y en a une obèse morbide, elle a déjà été brochée, elle fait tout ça, puis elle pèse sa nourriture.
OK.
Jamais tu devineras ce que j'ai découvert.
C'est-à-dire?
Elle ne perdait pas de poids.
Parce qu'elle cachait.
Elle serait allée voir Christiane. Christiane aurait dit, ben, c'est ta maladie.
Hmm.
Sais-tu qu'est-ce que j'ai découvert?
Quoi
devine.
Non?
Raphaël, fais-toi aller, devinez.
Ben,
Serge.
Qu'elle trichait?
Oui, oui, elle trichait, évidemment.
Ouais.
Mais avec quoi?
Mais pas avec les trois, toujours.
Non. Non, non. Les 3P plus les desserts.
Ouais. Donc, elle ne mangeait pas les 3P ni des desserts et elle était quand même obèse morbide.
C'est-à-dire, elle ne perdait pas de poids. Ouais, okay. Elle avait gagné du poids après le brochage, puis elle ne perdait pas de poids.
Mais en excluant les 3P puis le sucre, c'est ça?
Oui, oui. Devinez ce que Mailloux a découvert. Le pif.
Boy,
allez-y.
3P. Je sais pas, elle m'a mangé de la malbouffe à côté.
Non, 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 non. Alimentation irréprochable.
OK, OK.
Les 3P puis les desserts, aucune malbouffe.
Elle faisait pas d'activité physique?
Oui.
Non, raisonnablement, non.
OK.
Prenait des boissons gazeuses, non?
Serge, chaud.
Elle buvait de l'alcool.
Oui.
Ouais, ben là.
Du vin.
Oh. On pourrait peut-être mettre le 3P, le sucre, l'orge puis le raisin aussi, peut-être.
Ben écoutez, oui, oui. Alors j'ai découvert ça, puis j'ai dit OK, c'est correct. Alors, Christiane aura une obèse, une obèse morbide qui ne répond pas vraiment à une restriction alimentaire, envoie-la à Mailloux, puis tu vois qu'est-ce que Mailloux va trouver. Okay?
OK?
Alors, je vous dis ça en passant.
Oui, fait bon, que pour,
mais
juste pour
chronique,
sortir...
chronique absolument incroyable de Christiane Laberge ce matin, à répéter, à rejouer. Écoute, c'est une présentation universitaire.
Bon, ben je lui dirai.
Bravo, Christiane. Oui. OK? Bon,
accessible d'ailleurs au fm106.ca dans la section que la Mauricie se lève, si vous voulez la réentendre. Et pour situer les gens qui l'ont manqué, il était question du mythe de l'obésité santé, ce qui fait que vous avez l'air d'avoir un surpoids, mais il y a le mythe qui dit, ben malgré la couverture que vous présentez,
oui,
c'est pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est le mythe qu'elle déboulonnait tantôt.
Oui.
Donc, autre dossier maintenant, et le moment où Raphaël en a parlé, j'étais convaincu que vous seriez interpellé.
Ben oui.
Le dossier
ben oui.
De la fessée chez les enfants, peut-être Raphaël nous rappeler l'étude dont tu parlais.
Oui, effectivement, Marc-André, ben en fait, on disait que la fessée peut laisser des séquelles à long terme. On disait là que c'était dans une mise à jour de la politique de la principale association pédiatrique américaine. Ils expliquaient que depuis 1998, il y avait eu de l'évolution, et que la fessée est de moins en moins populaire auprès des parents, mais que cependant, on avise quand même les parents qui font cette fessée qu'il peut y avoir des séquelles à long terme. On parle de l'enfant peut le sentir dans la toxicomanie. Il peut y avoir des séquelles au niveau psychologique et pas juste au niveau physique.
Oui, effectivement. Alors, ça se précise. C'est vraiment mauvais. Alors, l'Association des pédiatres de l'Amérique, des États-Unis, prend position et maintenant a des données d'études scientifiques pour appuyer le fait que, bon, si vous vargez sur votre enfant, vous le frappez, vous augmentez les risques que cet enfant-là soit agressif. vous augmentez les risques qu'il ait des changements dans son cerveau, des problèmes de toxicomanie et des tendances suicidaires à l'âge adulte. En avez-vous assez les caves, là, ce matin? Moi, j'en ai eu des fessées, puis ça m'a mis du plomb dans la tête. Oui, c'est du plomb dans la tête, mais imaginez-vous donc, il y a des études qui démontrent que votre plomb a pris la place de votre matière grise, les innocents. Ce matin, je vous trouve pas drôle. Parce qu'à chaque fois que je parle d'interdire la fessée, il y a des hommes particulièrement qui s'élèvent. Moi, j'en ai eu, ça m'a mis du plomb dans la tête. Oui, t'as perdu de la matière grise. Et c'est pas Mayo qui le dit. Alors, il y a deux conséquences biologiques. Si vous frappez les tout-petits, les enfants, vous diminuez leur matière grise entre les deux oreilles, leur cerveau, et ça provoque des niveaux plus élevés d'hormones de stress, cortisol, ce qui va les rendre plus vulnérables à plusieurs maladies.
Et Dr Mayou, je vous amène sur une ligne dans le texte là, qui dit « Même si plusieurs enfants qui ont reçu une fessée deviennent des adultes heureux et en bonne santé », qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là?
Que?
Ben, en fait, le penchant et le parallèle de dire recevoir la fessée, on peut quand même devenir des adultes heureux et en bonne santé.
C'est une phrase de l'étude qui fait sourciller.
Dans quel pourcentage?
Ben, c'est ça.
Parce que là, les études publiées depuis 20 ans renforcent les preuves selon lesquelles la fessée peut rendre les jeunes enfants plus agressifs et plus réfractaires. Alors, c'est contre-productif. Bon, maintenant, il enchaîne, l'Académie va même jusqu'à introduire l'humiliation. Le fait d'humilier les enfants, les rend plus susceptibles à la dépression lorsqu'ils sont adultes et des problèmes de comportement chez les adolescents.
Je suis content qu'on n'ait pas oublié cet aspect-là, l'aspect psychologique aussi, souvent.
Ben voyons, ça rend plus vulnérable.
Ben oui.
C'est pas une façon de faire. Alors, à tous ceux, à toutes les caves qui veulent dompter les tout-petits, les faire obéir au doigt et à l'œil en les menaçant, c'est nécessairement mauvais. Hormis, pour une classe, les futurs délinquants.
Et Doc?
J'exclus dans mon discours les futurs truands.
Ouais, pouvez-vous préciser ça?
Les futurs criminels. Même s'ils se font venger dessus, j'ai comme l'impression que ça pourrait ne pas changer grand-chose.
OK, c'est déjà gâché, si on peut le dire.
Oui, à cause de leur trait de caractère. Okay. Bon, maintenant, une autre étude qui nous apprend, il y a un autre article dans le journal ce matin qui nous apprend, si c'est vrai, que 80% des prostituées auraient été violentées pendant leur enfance. Alors, au niveau des changements de comportement chez les adolescents, ça inclut la prostitution chez les filles.
Ouais.
C'est très sérieux.
Et Dr Mayou, il y a un auditeur tantôt qui nous a appelé qui s'appelle Mario. Il s'est confié justement sur la fessée. On va vous faire entendre. Et Marc-André lui a posé la question, qui donnait la fessée à l'époque? Je vous laisse entendre Mario.
Écoute, moi aujourd'hui j'ai 53 ans. Ouais. Quand j'étais ticu, j'étais un petit peu turbulent, on va se dire. Là, ça, ben, parce que j'étais un petit peu plus turbulent que la moyenne.
OK.
Puis c'est arrivé à l'occasion, pas souvent, mais c'est arrivé à quelques reprises que j'ai déjà eu des claques sur les fesses parce que je le méritais. On s'entend que des fois, quand on est turbulent, des fois, on court après. Puis c'est arrivé quelques fois que j'ai fait des méchants coups que, mais je veux dire, j'ai pas été mauvais père pour autant parce que j'ai eu un petit gars. Puis lui, au contraire, c'était dans le coin.
OK. Puis,
il était à genoux dans son coin, là, puis je le laissais à peu près peut-être 5 minutes. Puis là, il revenait, puis il me disait « Je m'excuse », puis tout le kit. Mais j'ai trop élevé mon enfant comme ça, puis j'ai jamais eu de problème. Mais moi, écoute, c'est sûr que j'étais un petit peu turbulent, mais sauf que c'est arrivé à quelques reprises que j'ai eu des claques sur les fesses, puis je m'en souviens, mais ça a pas... Je veux dire, j'ai pas été méchant garçon pour autant. Là.
Ouais. Qui vous les donnait, pour le fun?
Maman était plus autoritaire.
OK.
Quant à ça, mon père, lui, il était plus... lui, on dirait qu'il était comme... Lui, on pouvait tourner autour de la table, on pouvait tout garocher, lui, ça ne dérangeait pas. Mais maman, il était plus autoritaire. Hein, quand il disait que c'était ça, c'était ça.
Puis je lui ai demandé ensuite si la relation de confiance avec sa mère avait été affectée, puis il me répondait que non. Ça me surprit un peu, Doc.
Bon oui, écoute, il y a des rationalisations. Alors, Mario est un bel exemple d'individu qui a été frappé puis qui a perdu de la matière grise. On lui a remplacé une partie de son cerveau par du plomb. Je pense que ça paraît dans son raisonnement. Et lui, sa stratégie brillante, ça a été d'humilier son fils en le faisant agenouiller dans un coin. Alors, il continue la propagation et il va amener chez son garçon une vulnérabilité inutile.
Mais vous touchez un point important, Doc, parce que l'un des raisonnements qu'on entend souvent, c'est ça, c'est de dire je ne frappe pas mon enfant, mais je l'envoie dans le coin puis il réfléchit. Ce que vous nous dites là, c'est que d'envoyer l'enfant dans le coin à genoux, ça fonctionne pas non plus?
Bien, des enfants de 3 ans.
Oui.
Prends un enfant de 3 ans, envoyez-le à genoux dans le coin pour le faire réfléchir.
Il comprendra pas pourquoi il est là.
Ben...
À partir de quel moment?
Es-tu père de famille? Es-tu père de famille?
Oui, oui, oui.
Bon, un enfant de 3 ans, genoux dans le coin.
Mais non, mais c'est ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne comprendra pas.
Il ne comprend pas. Il ne sait pas pourquoi il est là. Mm-hmm. Alors, à part d'être humilié et de faire en sorte qu'il va être plus susceptible à la dépression, à des problèmes de comportement lorsqu'il sera adolescent, selon l'Académie américaine, mm-hmm. t'as rien fait, le cave, là.
Ah, ouais.
Moi, des témoignages comme Mario, là, c'est plein, là. C'est plein de cabochons. Puis je dis cabochon, là, dans le plein sens du mot. Ils sont trop imbéciles pour se rendre compte qu'ils ont eu une perte de matière grise.
Et je pose la question...
Oui, oui, ça leur a mis du plomb dans la tête. Ils ont de la matière inerte. Ils ont eu... Je suis vraiment fier ce matin. J'ai passé ma vie à constater les dommages. Est-ce que vous saviez qu'à peu près toutes les personnes qui me consultent en psychanalyse, ont à peu près toutes été frappées jeunes.
Ah, c'est tellement désolant.
Mais je vous pose la question, par contre, parce que dans l'étude, on dit également que du côté des jeunes parents, il y en a de moins en moins qui donnent la fessée à leurs enfants. Est-ce que c'est un comportement qui est générationnel, dans le sens qu'autrefois, quand les grands-parents ou les parents donnaient la fessée aux enfants d'aujourd'hui, ben, eux vont faire la même chose avec leurs propres enfants?
On sous-estime pas les jeunes parents.
Les nouveaux jeunes parents.
Les nouveaux jeunes parents, ils crient. Les nouveaux jeunes parents crient beaucoup et ils vont humilier l'enfant. Et les histoires d'enfants de 3 ans, 3 ans et demi, à genoux dans le coin, une demi-heure, j'en entends régulièrement.
Mm-hmm. Une demi-heure? Sacrifice.
Déjà, j'ai dit une demi-heure. J'ai, ouais. J'ai pas dit 5 minutes. Non, puis non, Mario, là, j'aurais été curieux de demander à sa conjointe si c'était 5 minutes ou 15 minutes. Mm. Avoir une source collatérale. Tu sais, notre Mario, là, il peut nous mentir comme il veut. Hein? Il n'y a pas seulement les gros qui mentent. Non, je commence à être tanné, là, de cette rhétorique-là. Là. Moi, j'en ai eu, puis je le méritais. Ouais, ben, tu méritais qu'on diminue ta substance grise, t'en avais déjà pas beaucoup d'avance. Hein, Mario?
Puis, non, mais on va faire attention à Mario quand même là-dedans.
Non,
Doc,
il fera pas attention. Mario, tu t'avances, tu te rends public, on te connaît pas, mais ton prénom, on va s'en rappeler, Mario.
Je comprends. Ce que je veux dire, c'est que même à travers le comportement des parents qui l'ont subi, ces derniers ont réussi même à lui faire croire que c'est normal.
Oui.
Alors, c'est ça mon point.
Non, c'est la plupart des enfants, c'est le syndrome de Stockholm.
Ouais.
Alors, la plupart des enfants maltraités, frappés, rudoyés, mal aimés, mal affectionné, protège l'abuseur. Mm-hmm. Alors, c'est une réaction qui est très fréquente. Et c'est clair que Mario, en disant « je le méritais quand j'étais tout petit, j'étais turbulent », ben là, fallait bien qu'elle me varge dessus un peu, tu sais, pour m'arrêter de bouger. Alors, la vaste majorité des enfants maltraités protège l'agresseur. La même chose pour souvent pour les agresseurs sexuels. Mm. Alors, à l'insu de la personne, inconsciemment, le syndrome de Stockholm joue énormément. Alors, syndrome de Stockholm, ou le syndrome de Patricia Hirsch, c'était ces personnes enlevées qui, à un moment donné, se mettent à se soumettre à l'agresseur.
Mm-hmm. Très intéressant ce matin,
c'est,
Doc.
C'est plus un signe de soumission qu'un signe de mérite, et soyons extrêmement prudents face à cette rhétorique éculée, trop longtemps véhiculée, et encore véhiculée aujourd'hui. Et ce genre de cabochons-là ne réalisent pas les ravages de l'humiliation de leur progéniture. C'est plein. Mm. C'est plein. Écoute, la majorité des parents sont utilisent un mode de soumission avec leurs enfants. Ouais. Alors, ils vont prendre les moyens pour les soumettre, pour les dompter.
Oui, c'est vrai, c'est un comportement qui m'écœure. On s'en reparle plus tard, 9h05, la commission PM aussi, on vous retrouve. Merci beaucoup, Pierre.
Oui, je pense qu'en commission PM, on va revenir là-dessus.
Oui, ça a été très éclairant.
J'ai hâte de voir ce que Robert va... Oui. Puis je pense qu'on pourrait introduire aussi Raphaël, parce que cette histoire-là, là, ça commence à être le temps qu'on règle le cas de l'obéissance aveugle et de la soumission exigée chez les bons enfants. J'exclus les futurs délinquants de mon discours.
Merci Pierre, à tantôt. Bye bye, le Doc Mayou tous les matins vers 7h10. Donc, très intéressant ce matin, le dossier de la fessée que Raphaël nous a ramené dans l'étude de tantôt.